franceinter.fr.
Je vois que vous abordez aujourd'hui des sujets graves.
Colette.
Et dont je n'hésite pas à dire que celui-là me dépasse. Un sens à la vie ? Est-ce qu'on a le temps d'en créer un ?
Ça peut pas faire de mal.
Je crois que la vie a pris assez tôt l'habitude de me malmener. Un peu rudement et au risque de me faire considérer comme un animal passif, je n'ai pas eu grand-chose à faire d'autre qu'à me laisser faire.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Écrire, pouvoir écrire, cela signifie la longue rêverie devant la feuille blanche. Le griffonnage inconscient, les jeux de la plume qui tournent en rond autour d'une tache d'encre, qui mordit le mot imparfait, le griffe, le hérisse de fléchette, l'orne d'antenne, de pattes, jusqu'à ce qu'il perde sa figure lisible de mots, muet en insecte fantastique. Écrire. C'est le regard accroché, hypnotisé par le reflet de la fenêtre dans l'encrier d'argent, la fièvre divine qui monte aux joues, au front, tandis qu'une bienheureuse mort glace sur le papier la main qui écrit. Cela veut dire aussi l'oubli de l'heure, la paresse au creux du divan, la débauche d'invention d'où l'on sort courbaturé, abêti, mais déjà récompensé et porteur de trésors qu'on décharge lentement sur la feuille vierge dans le petit cirque de lumière qui s'abrite sous la lampe. Écrire, verser avec rage toute la sincérité de soi sur le papier tentateur, si vite que parfois la main lutte et renâcle, surmenée par le dieu impatient qui la guide. Écrire, plaisir et souffrance d'oisifs. Écrire, j'éprouve le besoin vif comme la soif en été de noter, de peindre. Je prends encore la plume pour commencer le jeu périlleux et décevant, pour saisir et fixer le chatoyant, le fugace, le passionnant adjectif. Ce n'est qu'une courte crise, la démangeaison d'une cicatrice. Ces mots sont extraits de La Vagabonde, l'un des nombreux livres d'une romancière qui fut aussi journaliste et comédienne. Elle adorait les chats, se promener dans Paris et s'habiller en homme. Je veux bien sûr parler de l'insaisissable Colette. Elle est née Sidonie Gabrielle, un jour de janvier 1873 en Bourgogne. Amoureuse passionnée, écrivain adulé, elle a accédé à la gloire littéraire à une époque où les femmes n'étaient ni considérées ni récompensées. Marcel Proust dira d'elle qu'elle était son maître, et Sacha Guitry sera bien forcé d'admettre qu'elle était mystérieusement douée. Ce soir, je vous propose une échappée dans son œuvre qui ne ressemble à aucune autre. Colette aimait dire qu'elle pensait par le corps et non par l'esprit. Et en effet, toute son écriture est traversée par l'intime des sensations. À travers ses livres, elle a voulu tout voir, tout entendre et surtout tout vivre. Alors partons à la découverte de son œuvre en compagnie d'une autre femme passionnée. Elle m'avait déjà accompagné il y a quelques années pour deux émissions consacrées à l'humour anglais. Valérie Le Mercier. Bonsoir Valérie, merci d'être
avec nous. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invitée.
Les élèves du brevet élémentaire, levez-vous s'il vous plaît. Je suppose que vous rentrerez toutes à l'école normale l'année prochaine.
Non, moi je rentrerai chez moi.
Comment vous appelez-vous ?
Claudine.
À l'aube du XXe siècle, Colette a une vingtaine d'années et elle épouse Henri Gauthier-Villars, un homme du monde qui lui fait découvrir l'amour et l'écriture. Romancier, journaliste, critique, celui qui se fait appeler Willy est une personnalité connue des milieux parisiens. Un jour, il est séduit par les talents d'écriture de sa femme et lui propose d'entamer la rédaction de ses souvenirs de jeunesse. Colette se met au travail et ébauche ce qui deviendra la trilogie des Claudines. Elle y raconte les tribulations d'une adolescente rêveuse et un peu sauvageonne. Colette écrit avec passion. Willy corrige, signe et publie le manuscrit. Le succès est au rendez-vous car le livre se déclinera par la suite au théâtre et au cinéma. La jeune romancière est encore sous la coupe de son mari, mais elle fait déjà une entrée fracassante en littérature. Voici la première page de Claudine à l'école, premier volet de la série publié en 1900.
Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny, j'y suis née en 1884 et probablement je n'y mourrai pas. Mon manuel de géographie départementale s'exprime ainsi. Montigny en Frénois, jolie petite ville de 1850 habitants, construite en amphithéâtre sur la Thèse, on y admire une tour sarrasine bien conservée. Moi, ça ne me dit rien du tout ces descriptions-là. D'abord, il n'y a pas de Thèse. Je sais bien qu'elle est censée traverser des prés au-dessous du passage à niveau, mais en aucune saison, vous n'y trouveriez de quoi laver les pattes d'un moineau. Montigny construit en amphithéâtre? Non. Je ne vois pas ainsi. À ma manière, c'est des maisons qui dégringolent, depuis le haut de la colline jusqu'en bas de la vallée. Ça s'étage en escalier au-dessous d'un gros château, rebâti sous Louis XV, et déjà plus délabré que la tour sarrasine, épaisse, basse, toute gainée de lierre qui s'effrite par en haut un petit peu chaque jour. C'est un village, pas une ville. Les rues, grâce au ciel, ne sont pas pavées. Les averses y roulent en petits torrents secs au bout de 2 heures. C'est un village, pas très joli même, et que pourtant, j'adore. Le charme, le délice de ce pays fait de collines et de vallées si étroites que quelques-unes sont des ravins. C'est les bois profonds et envahisseurs qui moutonnent et ondulent jusque là-bas, aussi loin qu'on peut voir. Des prés verts, des trous par place, de petites cultures aussi, pas grand-chose. Les bois superbes dévorant tout, de sorte que cette belle contrée est affreusement pauvre, avec ses quelques fermes disséminées, si peu nombreuses, juste ce qu'il faut de toits rouges pour faire valoir le vert velouté des bois. Chers bois, je les connais tous, je les ai battus si souvent. Il y a les bois taillis, des arbustes qui vous agrippent méchamment la figure au passage, cela plein de soleil, de fraises, de muguets et aussi de serpents. J'y ai tressailli de frayeurs suffocantes à voir glisser devant mes pieds ces atroces petits corps lisses et froids. 20 fois je me suis arrêtée, haletante, en trouvant sous ma main une couleuvre bien sage, roulée en colimaçon régulièrement, sa tête en dessus, ses petits yeux dorés me regardant. Ce n'était pas dangereux. Ce n'était pas dangereux, mais quelle terreur! Tant pis, je finis toujours par y retourner, seule ou avec des camarades. Enfin, plutôt seule, parce que ces petites grandes filles m'agacent. Ça a peur de se déchirer au rond, ça a peur des petites bêtes, des chenilles veloutées, des araignées, des bruyères, si jolies, si rondes, des roses comme des perles. Ça crie, c'est fatigué, insupportable. Et puis, il y a mes préférés, les grands bois qui ont 16 et 20 ans. Ça me saigne le cœur d'en voir couper un. Pas broussailleux, ceux-là, des arbres comme des colonnes. Des sentiers étroits où il fait presque nuit à midi, où la voix et les pas sonnent d'une façon inquiétante. Dieu que je les aime, je m'y sens tellement seule, les yeux perdus loin entre les arbres dans le jour vert et mystérieux, à la fois délicieusement tranquille et un peu anxieuse à cause de la solitude et de l'obscurité vague. Pas de petites bêtes dans ces grands bois, ni de hautes herbes, un sol battu, tour à tour sec, sonore ou mou à cause des sources. Des lapins à derrière blanc les traversent, des chevreuils peureux dont on ne fait que deviner le passage tant ils courent vite, de grands faisans lourds, rouges, dorés, des sangliers, des loups. J'en ai entendu un au commencement de l'hiver, pendant que je ramassais des faines, ces bonnes petites faines huileuses qui grattent la gorge et font tousser. Quelquefois, des pluies d'orage vous surprennent dans ces grands bois-là. On se blottit sous un chêne plus épais que les autres et sans rien dire, on écoute la pluie crépiter là-haut comme sur un toit, bien à l'abri, pour ne sortir de ces profondeurs que tout ébloui et dépaysé, mal à l'aise au grand jour. Et les sapinières, oh, peu profondes elles et peu mystérieuses, je les aime pour leur odeur, pour des bruyères roses et violettes qui poussent dessous et pour leur chant sous le vent. Avant d'y arriver, on traverse des futaies serrées et tout d'un coup, on a la surprise délicieuse de déboucher au bord d'un étang. Un étang lisse et profond, enclos de tous côtés par les bois, si loin de toute chose. Les sapins poussent dans une espèce d'île au milieu. Il faut passer bravement à cheval sur un tronc déraciné qui rejoint les deux rives. Sous les sapins, on allume du feu, même en été, parce que c'est défendu. On y cuit n'importe quoi. Une pomme, une poire, une pomme de terre volée dans un champ, du pain. Ça sent la fumée amère et la résine. C'est abominable, c'est exquis. J'ai vécu dans ces bois-là 10 années de vagabondage éperdu, de conquête et de découverte. Le jour où il me faudra les quitter, j'aurai un gros chagrin.
De toutes les maisons que vous avez habitées, vers laquelle retournent le plus volontiers vos souvenirs?
Oh, ma maison natale, naturellement. C'est une maison de village, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne. Elle a gardé pour moi tous ses charmes. Elle est vieille, elle rassemble autour d'elle une petite cité de 13 ou 1500 habitants, un jardin négligé. Elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir. Ma chambre d'enfant n'y a connu aucun luxe et même pas un confort élémentaire. Mais je ne peux pas oublier que j'y ai élevé des chauves-souris, des chats, des chiens, des écureuils. Et j'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire et le certificat d'études. Mais vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non.
Colette a toujours adoré la nature, son silence, sa beauté et ses animaux. Les bêtes sont omniprésentes dans son œuvre, les chiens et les chats surtout, qui furent ses compagnons tout au long de sa vie. En 1904, juste après les aventures de Claudine, elle leur consacre un ouvrage assez drôle intitulé « Dialogue de bêtes ». Elle y met en scène le chien Toby et la chatte Kiki la Doucette dans une dizaine de petites scénettes dont voici un extrait. Les maîtres des deux animaux accueillent un matin une petite chienne. Si la chatte se cache à la vue du nouvel arrivant, Toby, le chien, veut voir l'intrus de plus près et engage la conversation. Comme elle est petite...
Monsieur, ne m'approchez pas.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, ma maîtresse sait pourquoi, elle n'est pas là, elle est restée dans l'autre chambre.
Quel âge avez-vous ?
J'ai 11 mois, ma mère a été prise de beauté à l'exposition canine, je ne pèse que 900 grammes et...
Comment faites-vous pour être si petite ?
C'est de naissance, je tiens dans un manchon, vous avez vu mon nouveau collier ? Il est en or.
Et ça, qui pend ?
C'est la médaille de ma mère. Monsieur, je ne la quitte jamais. J'arrive du palais de glace. J'y ai un succès fou. Figurez-vous que j'ai voulu mordre un monsieur qui parlait à ma maîtresse. Qu'on a ri.
Quelle drôle de créature. Est-ce une chienne, vraiment ? Oui. Elle sent la poudre de riz, mais c'est une chienne tout de même. Asseyez-vous un instant. Vous me faites mal au cœur en remuant comme ça.
Je veux bien.
Elle se couche, les pattes de devant croisées pour montrer la finesse de ses doigts.
Vous étiez seule ici ?
Oui, pourquoi ?
Ça sent drôle.
Ça sent le chat, sans doute.
Un chat ? Qu'est-ce qu'un chat ? Je n'en ai jamais vu. On vous laisse tout seul dans une chambre ?
Ça arrive.
Et vous ne criez pas ? Moi, dès que je suis seule, je crie, je m'ennuie, j'ai peur, je me trouve mal et je mange les coussins.
Et on vous fouette ?
Qu'est-ce que vous dites ? Mais vous perdez la tête. Ce serait dommage, vous avez de beaux yeux.
N'est-ce pas ?
Qu'est-ce que vous faites ce soir ?
Mais je dîne.
Mon Dieu, je pense bien. Je voulais savoir si on reçoit chez vous, si vous sortez.
Non, je suis déjà sorti.
En voiture ?
À pied, naturellement.
Comment naturellement ? Moi, je ne sors guère qu'en voiture. Montrez les dessous de vos pattes. Ah ! Quelle horreur ! On dirait de la pierre à repasser les couteaux. Regardez les miennes, satin dessus, velours dessous.
Je voudrais bien vous voir à la campagne sur les cailloux.
Mais j'y étais, monsieur, à la campagne l'été dernier. Et il n'y avait pas de cailloux.
Alors ce n'était pas la campagne. Vous ne savez pas ce que c'est.
Si, monsieur. C'est du sable fin, du gazon en brosse qu'on balaye tous les matins, une chaise longue sur l'herbe, de grands coussins frais en cretonne, du lait qui mousse, le sommeil à l'ombre et des petites pommes roses charmantes pour jouer avec.
Non. La campagne, c'est la route en farine blanche qui cuit les paupières et brûle les pattes, l'herbe grésillante et dure qui sent bon, la nuit inquiétante, car je suis seul à garder la maison. Couché dans ma corbeille, les battements de mon cœur surmenés m'ôtent le sommeil. Un chien là-bas me crie qu'un mauvais homme a passé sur le chemin. Vient-il de mon côté ? Devrais-je tout à l'heure bondir contre lui et dévorer sa figure d'ombre ?
Encore ! Ah, que j'ai peur !
Rassurez-vous, ça ne m'est jamais arrivé. Tout ça, oui, c'est la campagne. Et aussi la côte interminable à l'ombre de la voiture, quand la soif, la faim, la chaleur et la fatigue rendent l'âme résignée et sans espoir.
Et alors ?
Alors rien. C'est la campagne. Mais laissons tout cela. Je ne saurais penser quand vous êtes là à autre chose qu'à vous. Je sens que je vous aime.
D'amour ?
Naturellement.
Si vite ?
Nous avons déjà perdu beaucoup de temps.
Mais nous avons causé, j'y ai pris grand plaisir. Je comprends de moins en moins pourquoi on m'interdit la société des jeunes gens.
Laissez-moi vous faire la cour.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Voilà, je commence. Dressé sur mes pattes raidies, je piétine, je vous cerne de petits cris mélodieux. Ma queue tortillée vibre, mes flancs ravalés par une respiration inquiète me font plus mince, et par un art involontaire, mes oreilles crispées semblent plantées derrière ma nuque.
Oh, ne m'approchez pas, je suis troublée.
Déjà, pour l'emprise définitive complète, ma patte puissante plie vos reins.
Aïe, brutal.
Et dites donc, espèce de petite allumeuse, ça va finir ce jeu de cache-cache ? Viens donc, tu ne le regretteras pas.
Mon Dieu, c'est terrible. Faites de moi ce que vous voudrez.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
À chaque coup de rame, prend la force dans la taille et dans les talons. Allez, allez, allons. À chaque coup de pioche, prend la force, c'est fastoche de ma chanson, de ma chanson.
Nous sommes en 1905. Colette et Willy sont connus du tout Paris. Mais la jeune romancière apprend rapidement que son mari la trompe sans même s'en cacher. Leurs déboires conjugaux alimentent régulièrement la presse, mais Colette tient bon. Et le couple continue de s'afficher ensemble. Un soir, ils sont tous les deux invités à un grand dîner organisé pour le lancement d'une nouvelle revue. Et en arrivant, Colette rencontre Mathilde de Morny, une marquise qui se fait appeler Missy, qui porte le cheveu court, s'habille en homme et fume le cigare. Immédiatement séduite par ce personnage atypique, Colette va quitter mari et foyer pour elle. Ce nouvel amour marque le début d'une nouvelle vie pour l'écrivain qui s'est découverte une passion pour le théâtre et le mime. Aux côtés de son partenaire de scène et ami Georges Vague, elle parcourt les routes et music-halls de France pour jouer La Chair, l'un de ses plus grands succès. Mais cette tournée l'éloigne de Missy. Elle lui écrit donc des lettres passionnées grâce auxquelles on prend aujourd'hui toute la mesure de leur amour. Colette aimait en parler en ces termes. « Quand on a rencontré une amie comme Missy, on a atteint le bout de sa vie. Le bout d'une impasse bienheureuse et fermée où l'on se couche posé jusqu'à la mort. Je n'imagine plus la vie sans elle, sans sa douceur et son sourire. » Voici quelques extraits de cette correspondance.
Bordeaux, septembre 1908, hôtel du Chaponfin. Ma chérie, je t'écris vite avant de me coucher. Malgré un orchestre déplorable, nous avons eu du succès. Les applaudissements ont sonné dru, tu sais, le bon applaudissement sec et dur, pas celui qui fait un cloc mou. Je me couche, chérie, je suis vannée, je t'aime, je te regrette, tu me manques plus que tout. Mon Dieu, comme tu m'as désappris à vivre seule, moi qui autrefois avais une sorte de goût mélancolique et vif pour la solitude. Je piétine pour faire avancer le temps. Je t'embrasse, mon cœur chéri, c'est toi ma vraie raison de vivre. Ta Colette. Marseille, juin 1909, Grand Hôtel Noailles et Métropole. Ma chérie, je n'ai pas encore reçu de lettre de toi, il est plus de 2 heures. Je ne suis pas inquiète, mais je trouve que la poste va bien lentement. Oh, Missy, les cerises à Marseille en ce moment. Je n'en ai mangé de pareilles que chez moi autrefois. Elles sont énormes, tendres, gonflées. On les cueille sans soin avec des branches et elles ne font qu'un saut de l'arbre à la table. Tu les trouverais délicieuses. Et quelle abondance de fleurs ici. On marche dessus. Si tu voyais les gerbes d'œillets que j'ai dans ma chambre. Pourvu que tu voyages sans ennui, mon amour, plus que 2 jours sans toi. Je t'embrasse de tout mon cœur, ton enfant très sage, Colette. Bruxelles, février 1910, Hôtel Métropole. Ma chérie, je rentre de la répétition, je ne suis qu'une oie, qu'une imbécile et qu'une folle de vous avoir quittée. Je me demande par quelle aberration, moi qui ne peux vivre sans vous, je m'entête à vous quitter plus de 3 jours. 3 jours, ça va encore, ça peut se supporter, mais 15. Je me demande si je ne suis pas complètement infirme par certains coins du cerveau. Vous verrez si on me repince, votre stupide enfant. Dijon, septembre 1910, Grand Hôtel de la Cloche. Mamie si chérie. Je suis dans ma chambre avec un petit chat perdu que je viens de ramasser sur les rails d'un tramway. Il est déjà gros, mais d'une impossible maigreur qu'on croit tenir une dépouille d'oiseau. Que faire? Je l'ai trouvé tout vacillant sur ses pattes. Personne n'en veut. Il est sur mes genoux et se colle à moi quand je veux me lever. Voilà. Ça me fait un petit compagnon de solitude. Je t'embrasse, chérie. Je t'embrasse, brasse, mon velours.
Au printemps 1911, les deux femmes commencent à s'éloigner. Colette a rencontré Henri de Jouvenel, un séduisant et brillant journaliste qui deviendra plus tard son deuxième mari. Et Missy ne peut plus supporter de voir celle qu'elle aime lui échapper. Alors elle décide de rompre leur relation. Dès lors, elles ne se parleront plus. Il faudra laisser passer 20 longues années pour qu'elles redeviennent amies. Voici ce que Henri de Jouvenel écrit à Missy au début de l'été 1911, en réponse à une lettre qu'elle lui avait envoyée. « Madame, votre lettre m'a touché jusqu'au cœur. J'y ai reconnu votre générosité mélancolique. Vous m'écrivez « Je vous confie Colette ». Je crois avoir compris ce que cette phrase cache encore de tendresse. Et je sens tout ce qu'elle m'impose. J'accepte Colette de vous, madame. Je crois qu'elle trouvera près de moi une vie honnête, saine et digne. Elle est faible comme une enfant. J'espère que mon bras sera assez solide pour qu'elle puisse s'y appuyer. Je n'aurais, je crois, jamais songé à vous la prendre, mais il est certaines gens dont le contact seul l'eût gâté. C'est faire œuvre bonne que de la retirer de leurs mains. Il ne faut pas dire de mal de vous, madame, comme vous le faites dans votre lettre. Il ne faut pas penser de mal d'elle. Et je crois qu'il ne faut pas non plus m'accuser. Toutes nos vies se retrouvent bouleversées ensemble. Il n'y a qu'à se laisser faire. Henri de Jouvenel.
Il me semble que... Je n'aurais pas seulement fait acte de bavardage, mais que j'aurais peut-être fourni à d'autres entravés, d'autres fatigués comme moi, que je leur aurais fourni un encouragement à penser un peu autrement, à feuilleter le passé d'une autre manière qu'elles n'ont l'habitude de le faire. Il y a pour le souvenir d'autres formes, Dieu merci, d'autres formes que le regret, et encore le regret, et toujours le regret, la merveilleuse possession qu'est le souvenir. Personne ne peut plus nous l'ôter.
Des années passent et Colette écrit énormément, 1 voire 2 livres par an, mais aussi des articles publiés dans divers journaux. Émancipée des conventions dans sa vie, elle l'est aussi dans son œuvre lorsqu'elle met en scène un amour impossible dans l'un de ses plus célèbres romans, Chérie. Un homme et une femme s'aiment passionnément, mais 20 ans les séparent. Chérie sort tout juste de l'adolescence, tandis que la séduisante Léa a déjà 40 ans. Leur histoire va durer quelques années, puis Chérie va épouser Charlotte, une fille de son âge, qui est très fortunée, mais dont il n'est pas amoureux. Un soir, Chérie vient frapper à la porte de Léa.
et les deux anciens amants se retrouvent le temps d'une nuit. Il commença de retirer son smoking, son gilet. Sa cravate siffla dans l'air et s'enroula au cou d'un buste de Léa sur la cheminée. Cependant, il ne s'écartait pas d'elle et la maintenait, genou contre genou, assise sur la chaise longue. Lorsqu'elle le vit demi-nu, elle lui demanda presque tristement
« Tu veux donc ? Oui ?»
Il ne répondit pas, absorbé par l'idée de son plaisir proche et le désir qu'il avait de la reprendre. Elle se soumit et servit son jeune amant en bonne maîtresse, attentive et grave. Cependant, elle voyait avec une sorte de terreur approcher l'instant de sa propre défaite. Elle endurait Chéri comme un supplice, le repoussait de ses mains sans force et le retenait entre ses genoux puissants. Enfin, elle le saisit au bras, cria faiblement et sombra dans cet abîme d'où l'amour remonte pâle, taciturne et plein du regret de la mort. Ils ne se délièrent pas et nulle parole ne troubla le long silence où ils reprenaient vie. Le torse de Chéri avait glissé sur le flanc de Léa et sa tête pendante reposait, les yeux clos, sur le drap, comme si on l'eût poignardé sur sa maîtresse. Elle, un peu détournée vers l'autre côté, portait presque tout le poids de ce corps qui ne la ménageait pas. Elle haletait tout bas, son bras gauche écrasé lui faisait mal, et Chéri sentait s'engourdir sa nuque, mais ils attendaient l'un et l'autre, dans une immobilité respectueuse, que la foudre décroissante du plaisir se fût éloignée d'eux.
« Il dort »,
pensa Léa. Sa main libre tenait encore le poignet de Chéri, qu'elle serra doucement. Un genou dont elle connaissait la forme rare meurtrissait son genou. À la hauteur de son propre cœur, elle percevait le battement égal et étouffé d'un cœur. Tenace, actif, mélange de fleurs grasses et de bois exotiques, le parfum préféré de Chéri errait.
« Il est là »,
se dit Léa. Et une sécurité aveugle la baigna toute.
« Il est là pour toujours »,
s'écria-t'elle intérieurement. Sa prudence avisée, le bon sens souriant qui avait guidé sa vie, les hésitations humiliées de son âge mûr, puis ses renoncements, tout recula et s'évanouit devant la brutalité présomptueuse de l'amour.
Il est là, laissant sa maison, sa petite femme niaise et jolie. Il est revenu, il m'est revenu. Qui pourrait me l'enlever ? Maintenant, je vais organiser notre existence. Il ne sait toujours pas ce qu'il veut, mais moi, je le sais. Un départ sera sans doute nécessaire. Nous ne nous cacherons pas, mais nous chercherons la tranquillité. Et puis, il me fait le loisir de le regarder. Je n'ai pas dû bien le regarder au temps où je savais que je l'aimais. Il me faut un pays où nous aurons assez de place pour ses caprices et mes volontés. Moi, je penserai pour nous deux. »
Comme elle dégageait avec précaution son bras gauche fourmillant et douloureux et son épaule que l'immobilité ankylosait, elle regarda le visage détourné de Chéri et elle vit qu'il ne dormait pas. Le blanc de son œil brillait. Et la petite aile noire de ses cils battait irrégulièrement. Il se retourna tout entier d'un seul mouvement. Chéri, étendue, reconnaissait le chant de son repos et de ses jeux voluptueux. Léa, accoudée près de lui, caressait de la main les longs sourcils qu'elle aimait et rejetait en arrière les cheveux de Chéri. Ainsi couché et les cheveux dispersés autour de son front, il sembla renversé par un vent furieux. Une pensée illisible se levait au fond de ses yeux, dont la forme, la nuance de giroflée très sombre, l'éclat sévère ou langoureux ne lui avait servi qu'à vaincre et non à révéler. Son torse nu, large aux épaules, mince à la ceinture, émergeait des draps froissés comme d'une houle, et tout son être respirait la mélancolie des œuvres parfaites.
« À lui de dormir, à moi de penser »,
se répéta-t-elle.
« Notre départ, je l'organiserai très chic, très discret. Mon principe est de causer le minimum de bruit et de chagrin. »
L'image d'une jeune femme en costume de nuit, anxieuse et debout près d'une fenêtre, ne retint Léa que le temps de hausser l'épaule avec une froide équité.
« Ça, je n'y peux rien. Ce qui fait le bonheur des uns. »
Et la tête soyeuse et noire bougea sur son sein, et l'amant endormi se plaignit en rêve. D'un bras farouche, Léa le protégea contre les mauvais songes et le berça afin qu'il demeurât longtemps, sans yeux, sans souvenirs et sans dessein.
Mais les deux amants sont vite rattrapés par la réalité. Très vite, Léa veut savoir si Chéri revient pour de bon, s'ils vont pouvoir s'aimer vraiment. Mais le temps a passé sur eux, et Léa se rend compte que l'homme qu'elle aime est amoureux d'un souvenir.
Où es-tu revenue ? J'étais si calme, si seule, si habituée.
Elle s'entendit mentir et s'interrompit. Pas moi, riposta Chéri. Je suis revenue parce que il écarta les bras, les laissa retomber, les rouvrit. Parce que je ne pouvais plus me passer de toi. Ce n'est pas la peine de chercher autre chose. Ils demeurèrent silencieux un instant. Elle contemplait affaissé, ce jeune homme impatient, blanc comme une mouette, dont les pieds légers et les bras ouverts semblaient prêts pour l'essor. Les yeux sombres de Chéri erraient au-dessus d'elle. « Ah, tu peux te vanter, » dit-il soudain, « tu peux te vanter de m'avoir, depuis 3 mois surtout, fait mener une vie. »«
Moi ?»«
Et qui donc sinon toi ? Une porte qui s'ouvre. » C'était Nounoun. Le téléphone, c'était Nounoun. Une lettre dans la boîte du jardin, peut-être Nounoun. Jusque dans le vin que je buvais, je te cherchais et je ne trouvais jamais le pommery de chez toi. Et la nuit, ah. Il marchait très vite et sans aucun bruit, de long en large sur le tapis. Je peux le dire que je sais ce que c'est que de souffrir pour une femme. Oui, je les attends à présent, celles d'après toi. Ah, que tu m'as bien empoisonnée. Elle se redressait lentement, suivait d'un balancement du buste le va-et-vient de Chéri. Elle avait les pommettes sèches et luisantes, d'un rouge fiévreux qui rendait le bleu de ses yeux presque insoutenable. Il marchait la tête penchée et ne cessait de parler. « Tu penses, Neuilly sans toi, premier temps de mon retour. D'ailleurs, tout sans toi, je serais devenu fou. Un soir, la petite était malade, je ne sais plus de quoi, des douleurs, des névralgies. Elle me faisait de la peine, mais je suis sorti de la chambre parce que rien au monde ne m'aurait empêché de lui dire « Attends, ne pleure pas, je vais aller chercher Nounoun qui te guérira. » D'ailleurs, tu serais venu, n'est-ce pas ? Voilà. Oh là là, cette vie à l'hôtel Maurice. J'avais embauché Desmond, bien payé. Et je lui en racontais quelquefois la nuit. Je lui disais, comme s'il ne te connaissait pas, « Mon vieux, une peau comme la sienne, ça n'existe pas. » Et tu vois ton cabochon de saphir, eh bien mon vieux, cache-le, parce que le bleu de ses yeux à elle, il ne tourne pas au gris, aux lumières. Et je lui disais comme tu étais rossarde quand tu voulais, et que personne n'avait le dernier mot avec toi. Je lui disais, cette femme-là, mon vieux, quand elle a le chapeau qu'il lui faut, et la manière de s'habiller qu'elle a, tu peux mettre n'importe quelle femme à côté, tout fout le camp. Et puis tes manières épatantes de parler, de marcher, ton sourire, ta démarche qui fait chic. Je lui disais à Desmond, ce n'est pas rien une femme comme Léa. Et il claqua des doigts avec une fierté de propriétaire, puis s'arrêta, essoufflé de parler, de marcher. Il voulut reprendre et regarda Léa. Elle l'écoutait encore, assise très droite à présent. Elle lui montrait en pleine lumière son visage noble et défait, ciré par de cuisantes larmes séchées. Un point invisible tirait en bas le menton et les joues, attristait les coins tremblants de la bouche. Dans ce naufrage de la beauté, Chéri retrouvait intact le joli nez dominateur et les prunelles d'un bleu de fleurs. Alors, après des mois de cette vie, j'arrive ici et... Il s'arrêta, effrayé de ce qu'il avait failli dire.
« Tu arrives ici et tu trouves une vieille femme. »
dit Léa d'une voix faible et tranquille. Il se jeta à genoux contre elle, laissant voir sur son visage la lâcheté d'un enfant qui ne trouve plus de mots pour cacher une faute.
« Et tu trouves une vieille femme. »
répéta Léa.
« De quoi donc as-tu peur, petit ?»
Elle entoura de son bras les épaules de Chéri, sentit le raidissement, la défense de ce corps qui souffrait parce qu'elle était blessée.
« Viens donc, mon chéri. De quoi as-tu peur ? De m'avoir fait de la peine ? Ne pleure pas. Comme je te remercie, au contraire. Tu as dit tout cela ? Tu as pensé tout cela de moi ? J'étais donc si belle à tes yeux, dis ? À l'âge où tant de femmes ont fini de vivre, j'étais pour toi la plus belle, la meilleure des femmes, et tu m'aimais. Comme je te remercie, mon chéri. La plus chic, tu as dit. Si j'avais été la plus chic, j'aurais fait de toi un homme au lieu de ne penser qu'au plaisir de ton corps et au mien. La plus chic, non. » Non, je ne l'étais pas, mon chéri, puisque je te gardais.
Il semblait dormir dans les bras de Léa, mais ses paupières obstinément jointes tressaillaient sans cesse et il s'accrochait d'une main immobile et fermée au peignoir qui se déchirait lentement. Elle se pencha sur lui.
« Mon chéri, écoute-moi. Éveille-toi, écoute-moi les yeux ouverts. N'aie pas peur de me voir. Je suis tout de même cette femme que tu as aimée. »
Il ouvrit les yeux et son premier regard mouillé était déjà plein d'un espoir égoïste et suppliant. Léa détourna la tête.
« Ses yeux, oh, faisons vite !»
Et elle reposa sa joue sur le front de chéri.
« Je t'ai porté trop longtemps contre moi. Je suis responsable. Te voilà à 25 ans, si léger, si gâté et si sombre à la fois. J'en ai beaucoup de soucis. Toi qui m'as aimé, pourras-tu... Je ne sais pas comment me faire comprendre. Pardonne-moi, chérie, je t'ai aimé comme si nous devions l'un et l'autre mourir l'heure d'après. Parce que je suis née 24 ans avant toi. J'étais condamnée et je t'entraînais avec moi. Vite, petit, va chercher ta jeunesse. Elle n'est qu'écornée par les dames mûres. Il t'en reste. Tu y as goûté à la jeunesse. Elle ne contente pas, mais on y retourne. »
Elle parlait sur un ton de supplication précipitée. Il l'écoutait debout, campé devant elle, les cheveux en tempête, si tentant qu'elle noua l'une à l'autre ses mains qui allaient le saisir. Il le devina peut-être et ne se déroba pas. Un espoir imbécile comme celui qui peut atteindre pendant leur chute les gens qui tombent d'une tour brilla entre eux et s'évanouit.
« Va !»
dit-elle à voix basse.
« Je t'aime, c'est trop tard, va-t'en. Va-t'en tout de suite !» « Rentre vite, il n'est pas midi. Tiens, tes gants. Ah oui, ton chapeau, par terre. Au revoir, mon chéri, au revoir, c'est ça. Tu diras à Charlotte... »
Et elle referma sur lui la porte et le silence mit fin à ses vaines paroles désespérées. Elle entendit que chéri butait dans l'escalier et elle courut à la fenêtre. Il descendait le perron et s'arrêta au milieu de la cour.
« Il remonte !»
cria-t-elle en levant les bras. Une vieille femme haletante répéta dans le miroir au blond son geste. Et Léa se demandait ce qu'elle pouvait avoir de commun avec cette folle. Chéri reprit son chemin vers la rue, ouvrit la grille et sortit. Sur le trottoir, il boutonna son pardessus pour cacher son linge de la veille. Léa laissa retomber le rideau, mais elle eut encore le temps de voir que Chéri levait la tête vers le ciel printanier et les marronniers chargés de fleurs, et qu'en marchant, il gonflait d'air sa poitrine, comme un évadé.
Mon bel amour, à nous deux, durant toutes ces années, nous avons réussi à le vivre, cet amour impossible, en dépit des autres, en dépit de la bienséance, en dépit de tout. Toi qui m'as aimée au-dessus des autres femmes, moi qui ai eu le tort de naître si longtemps avant toi. Aujourd'hui, nos routes se séparent, notre amour devient filial. Sans moi, tu vas vers cette autre vie, vers d'autres bonheurs, vers cette jeune fille si belle et qui a ton âge. Parfois, en cueillant une fleur, en respirant l'air du large, en lisant une phrase, tu penseras à moi. Éloigne-toi lentement, sans larmes. Ne t'arrête pas le long de la route irrésistible. Tu l'essaierais en vain. Puisqu'il faut vieillir, suis le chemin et ne t'y couche que pour mourir.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
I miss my friends and my guitar, knowing I can travel far, but now I'm only standing here, completely paralyzed with fear. The fear of who I'll come to be, of all the weaknesses in me. I truly thought I was prepared, but now I'm panicked and I'm scared. But how did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a coward?
Coward.
Et découvrons maintenant Les Vrilles de la vigne, un recueil de nouvelles écrit au début de sa carrière. Colette évoque ici les souvenirs d'enfance, mais aussi l'irrémédiable temps qui passe. Dans le texte qui a pour titre « Nouvel an », elle raconte sa mélancolie, sa peur de l'oubli, sa peur de vieillir aussi. Ma petite bulle au cœur enfantin dort, foudroyée de sommeil, la fièvre au museau et aux pattes. La chatte grise n'ignore pas qu'il neige, et depuis le déjeuner, je n'ai pas vu le bout de son nez, enfoui dans le poil de son ventre. Encore une fois, me voici, comme au début de l'autre année, assise en face de mon feu, de ma solitude, en face de moi-même. Une année de plus. À quoi bon y compter ? Ce jour de l'an parisien ne me rappelle rien des 1er janvier de ma jeunesse. Et qui pourrait me rendre la solennité puérile des jours de l'an d'autrefois ? La forme des années a changé pour moi, pendant que moi, je changeais. L'année n'est plus cette route ondulée, ce ruban déroulé qui, depuis janvier, montait vers le printemps, montait vers l'été pour s'y épanouir en calme pleine, en prés brûlants, coupés d'ombres bleues, tachés de géraniums éblouissants, puis descendait vers un automne odorant, brumeux, fleurant le marécage, le fruit mûr et le gibier, puis s'enfoncer vers un hiver sec, sonore, miroitant des temps gelés de neige rose sous le soleil. Puis le ruban ondulé dévalait, vertigineux, jusqu'à rompre net devant une date merveilleuse, isolée, suspendue entre les deux années comme une fleur de givre, le jour de l'an. Une enfant très aimée, entre des parents pas riches, et qui vivait à la campagne parmi des arbres et des livres, et qui n'a pas connu ni souhaité les jouets coûteux. Voilà ce que je revois en me penchant ce soir sur mon passé. Une enfant superstitieusement attachée aux fêtes des saisons, aux dates marquées par un cadeau, une fleur, un traditionnel gâteau. Une enfant qui d'instinct ennoblissait de paganisme les fêtes chrétiennes, amoureuse seulement du rameau de buis, de l'œuf rouge de Pâques, une fillette éprise de la crêpe en carnaval, de l'odeur étouffante de l'église. J'étais si sage. Il est bien vrai que je rêvais de miracles. J'habitais un paradis que vous n'imaginez point, peuplé de mes dieux, de mes animaux parlants. Ah, qu'il y a longtemps. Ma solitude, cette neige de décembre, ce seuil d'une autre année ne me rendront pas le frisson d'autrefois. Oh, tous les hivers de mon enfance, une journée d'hiver vient de vous rendre à moi. C'est mon visage d'autrefois que je cherche dans ce miroir ovale saisi d'une main distraite, et non mon visage de femme jeune que sa jeunesse va bientôt quitter. D'un pinceau ému, je pourrais repeindre sur ce visage-ci celui d'une fraîche enfant roussie de soleil, rosie de froid, des joues élastiques achevées en un menton mince, des sourcils mobiles prompts à se plisser, une bouche dont les coins rusés démentent la courte lèvre ingénue. Hélas, ce n'est qu'un instant. Le velours adorable du pastel ressuscité s'effrite et s'envole. L'eau sombre du petit miroir retient seulement mon image, qui est bien pareille, toute pareille à moi, marquée de légers coups d'ongles, finement gravés aux paupières, au coin des lèvres, entre les sourcils têtus. Une image qui ne sourit ni ne s'attriste et qui murmure pour moi seul « Il faut vieillir, ne pleure pas, ne joins pas des doigts suppliants, ne te révolte pas, il faut vieillir ». Répète-toi cette parole non comme un cri de désespoir, mais comme le rappel d'un départ nécessaire. Regarde-toi, regarde tes paupières, tes lèvres, soulève sur tes tempes les boucles de tes cheveux. Déjà tu commences à t'éloigner de ta vie. Ne l'oublie pas, il faut vieillir. Éloigne-toi lentement, lentement, sans larmes, n'oublie rien. Emporte ta santé, ta gaieté, ta coquetterie, le peu de bonté et de justice qui t'a rendu la vie moins amère. N'oublie pas. Va-t'en parée, va-t'en douce, et ne t'arrête pas le long de la route irrésistible. Il faut vieillir. Suis le chemin et ne t'y couche que pour mourir. Et quand tu t'étendras en travers du vertigineux ruban ondulé,
Si tu n'as pas laissé derrière toi, un à un, tes cheveux en boucle, ni tes dents une à une, ni tes membres un à un usés, si la poudre éternelle n'a pas, avant ta dernière heure, sevré tes yeux de la lumière merveilleuse, si tu as jusqu'au bout gardé dans ta main la main amie qui te guide, alors couche-toi en souriant et dors heureuse, dors privilégiée. Nous avons ouvert cette émission avec un extrait de La Vagabonde et nous la concluons avec la dernière page de ce texte, un hymne magnifique à la femme libre. La narratrice Colette s'adresse ici à son amant dans une lettre. Il s'agit d'un mot d'adieu dans lequel elle choisit de rester indépendante malgré l'amour qu'elle porte à son partenaire. Elle veut vivre par elle-même, penser par elle-même, voir le monde selon ses propres yeux. Et c'est peut-être le texte qui résume mieux que nul autre ce qu'était vraiment Colette, une affranchie, maître de son destin.
Cher intrus que j'ai voulu aimer, je t'épargne, je te laisse ta seule chance de grandir à mes yeux, je m'éloigne. Tu n'auras à lire ma lettre que du chagrin. Tu ne sauras pas à quelle humiliante confrontation tu échappes. Tu ne sauras pas de quel débat tu fus le prix que je dédaigne, car je te rejette et je choisis tout ce qui n'est pas toi. Je t'ai déjà connu et je te reconnais. N'es-tu pas en croyant donner celui qui accapare? Tu étais venu pour partager ma vie. Partager, oui, prendre ta part. Être de moitié dans mes actes, t'introduire à chaque heure dans la pagode secrète de mes pensées, n'est-ce pas? Pourquoi toi plutôt qu'un autre? Je l'ai fermé à tous. Tu es bon et tu prétendais de la meilleure foi du monde m'apporter le bonheur, car tu m'as vu dénué et solitaire. Mais tu avais compté sans mon orgueil de pauvresse. Les plus beaux pays de la terre, je refuse de les contempler tout petits au miroir amoureux de ton regard. Le bonheur. Es-tu sûr que le bonheur me suffise désormais? Il n'y a pas que le bonheur qui donne du prix à la vie. Tu me voulais illuminer de cette banale aurore, car tu me plaignais obscur. Obscur, si tu veux, comme une chambre vue du dehors. Sombre et non obscur. Sombre et parée par les soins d'une vigilante tristesse. Argentée et crépusculaire comme les frais, comme la souris soyeuse, comme l'aile de mythe. Sombre avec le rouge reflet d'un déchirant souvenir. Mais tu es celui devant qui je n'aurai plus le droit d'être triste. Je m'échappe, mais je ne suis pas quitte encore de toi, je le sais. Vagabonde et libre, je souhaiterais parfois l'ombre de tes murs. Combien de fois vais-je retourner à toi, cher appui où je me repose et me blesse? Combien de temps vais-je appeler ce que tu pouvais me donner? Une longue volupté, suspendue, attisée, renouvelée, la chute ailée. L'évanouissement où les forces renaissent de leur mort même. Le bourdonnement musical du sang affolé, l'odeur du santal brûlé et de l'herbe foulée. Oh, tu seras longtemps une des soifs de ma route. Je te désirerai tour à tour comme le fruit suspendu, comme l'eau lointaine et comme la petite maison bienheureuse que je frôle. Je laisse à chaque lieu de mes désirs errants mille et mille ombres à ma ressemblance, effeuillées de moi. Tu gardes la plus tenace, une ombre nue, onduleuse, que le plaisir agite comme une herbe dans le ruisseau. Mais le temps la dissoudra comme les autres, et tu ne sauras plus rien de moi, jusqu'au jour où mes pas s'arrêteront et où s'envolera de moi une dernière petite ombre.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Marie Le Peintre. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Merci beaucoup Valérie.
Merci Guillaume.
Et j'espère à une prochaine fois, jamais 203. Bonne fin d'après-midi et à la semaine prochaine.